Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Bonsoir.
Bonsoir Loïc.
Alors Ergun Toparslan, mercredi, la première ministre Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale et c'est une nouvelle séquence de la vie politique qui va commencer après la présidentielle et les législatives. Premier dossier à l'agenda du gouvernement, le pouvoir d'achat. Est-ce que les mesures envisagées par le gouvernement vont pouvoir répondre aux urgences ?
Nous, on le croit. On sait qu'aujourd'hui, il y a une double problématique qui s'applique. Donc, tout d'abord, l'augmentation des prix, plus l'inflation qui va tomber, qui va avoir des répercussions directes dans le portefeuille des ménages. Et on pense que la proposition qu'on avait portée depuis l'élection présidentielle et celle qu'on va proposer à l'Assemblée nationale sera adéquate pour répondre à cette urgence et pour être tout à fait réactif dans les prochains jours.
Il va falloir augmenter les minima sociaux notamment, il faudra encadrer les prix.
On n'est pas sur cette position. Nous on pense que il y a une instabilité périodique qu'il va falloir gérer et c'est pour ça que la proposition de notre chèque alimentaire va dans ce sens-là. Ensuite, on espère aussi que notre approche globale qui concerne l'économie de notre pays nous permettra, comme elle nous a permis d'avoir une inflation moins forte que les autres pays de l'Union européenne, aller rechercher une croissance et une nouvelle dynamique qui stabilisera les marchés et qui reviendra à des prix plus abordables pour nos ménages.
La prime Macron n'est pas octroyée finalement à tous les salariés. Est-ce qu'il faut l'élargir, cette prime Macron ?
Nous, on souhaitait l'élargir. On souhaite maintenant faire cette proposition, aller chercher une majorité à l'Assemblée nationale qui ira dans ce sens. On verra comment les députés et les représentants de la nation vont réagir par rapport à cette proposition-là. Mais on sait aussi que c'est également un élément important qui permettra à ce que le pouvoir d'achat des Français soit amélioré.
Alors, autre urgence, Ergun Toparslan, c'est le cas de le dire, la crise de l'hôpital, avec des services d'urgence qui risquent de fermer cet été, faute de personnel. La première ministre a annoncé qu'elle reprenait toutes les préconisations formulées dans le rapport flash qu'elle a commandé. Vous avez le sentiment que ça peut permettre de limiter les difficultés à l'hôpital pendant les 2 à 3 mois qui viennent ?
Oui, j'en suis convaincu. Le docteur Braun, qui a travaillé sur le sujet, est une personnalité importante, parce que de ma région à moi, il était directeur des urgences de l'hôpital de Mercy, qui connaît ce genre de difficultés, qui en a connu d'ailleurs, ne serait-ce que la semaine dernière, avec une possibilité de fermeture du service d'urgence d'un hôpital très important, celui de Mercy. Et donc, c'est un docteur qui a travaillé depuis très longtemps sur les sujets-là, y compris dans la campagne présidentielle, et elle a participé activement aux réunions et aux propositions thématiques qui a fait le programme du président de la République. Et donc aujourd'hui, son rapport rentre dans ce sens-là. Je pense qu'il faut le prendre dans sa globalité, dans son entièreté. Ça nous permettra de répondre aux exigences et aux difficultés du quotidien et pouvoir aussi un peu désengorger nos urgences qui doivent redevenir véritablement, comme son nom l'indique, des urgences et un traitement qui correspondrait plus à sa vocation d'origine.
Il faut donc trier l'arrivée des patients aux urgences. Certains doivent aller voir des médecins de ville. On peut utiliser aussi la vidéoconsultation.
Il faut travailler sur ces deux pieds-là, c'est très important. On n'a pas d'autre choix pour désengorger, parce que quand on constate, et le docteur Braun qui est en bonne position l'a vécu et le vit d'ailleurs quotidiennement, on sait très bien qu'il y a beaucoup de difficultés, notamment dans des déserts médicaux, qui font que il y a des visites en urgence qui ne doivent pas avoir lieu et qui, bon gré mal gré, encombrent et rendent plus difficile la tâche de nos urgentistes. Donc il va falloir faire cela et on n'a pas d'autre choix pour répondre à la problématique aujourd'hui.
Ergun Toparslan, il y a un mot qui a fait florès avec la crise sanitaire, c'est la souveraineté, au point que ce mot figure désormais dans l'intitulé de certains ministères, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire. C'est l'une des leçons qu'il faut tirer des crises que la France traverse, crise sanitaire, crise énergétique, crise alimentaire, avec en toile de fond la guerre en Ukraine.
Absolument, le contexte international et l'instabilité géopolitique nous poussent à aller vers cela et de toute façon, on est dans une démarche qui prenait ça. Aujourd'hui, pour la première fois, le ministère de l'Agriculture a intégré la notion de souveraineté alimentaire. C'est excessivement important et on souhaite le marteler, y compris en ce qui concerne le ministère de l'économie et de la souveraineté énergétique, c'est très important. C'est aussi deux axes forts du projet qu'a porté et qui a fait que le président de la République Emmanuel Macron a été réélu lors de la présidentielle. Et aujourd'hui, on le voit très bien, dans une instabilité importante du monde, du continent européen, on n'a pas d'autre alternative à ce qu'on puisse être complètement souverain et indépendant sur des enjeux tout à fait importants qui sont l'énergie et l'alimentaire. Et donc, c'est assez important, mais il ne faut pas perdre de vue également, et c'est ça que ça concerne notre engagement continentaux et internationaux, que dans le monde actuel, nous sommes obligés d'aller vers de la coopération et de la solidarité. C'est-à-dire que on peut très bien être souverain alimentairement, nous, dans notre pays, mais il ne faut pas qu'on perde de vue aussi les problématiques que peuvent connaître actuellement, par exemple, les pays du Maghreb et les pays d'Afrique qui ont des difficultés sur lesquelles ils peuvent pas dépasser la crise du blé qui touche le Maghreb ou l'Égypte. Elle ne peut pas être surmontée en Égypte et au Maghreb d'un point de vue tout simplement de climat et de situation agricole. Donc ce sont des éléments importants, ce sont des marqueurs importants, ça montre la vision et la stratégie et notre souhait pour le pays, et on souhaite que dans ce cadre-là, on puisse aller encore une fois rechercher, pour revenir à de la politique, une coalition qui nous permettra qui rentrera pleinement dans ces objectifs-là de souveraineté.
Alors on va parler tout à l'heure de la majorité d'action voulue par le gouvernement, mais j'aimerais qu'on s'arrête à nouveau sur cette question de la souveraineté avec l'énergie. Les patrons des trois principaux fournisseurs d'énergie ont demandé aux Français d'économiser les carburants, l'électricité et le gaz. Ergun Toparslan, que vous inspire cet appel ?
Il nous inspire deux choses. Tout d'abord, le fait que la situation critique qu'on avait décrite existe vraiment pour ces acteurs importants, c'est le constat assez historique et qu'ils puissent prendre la parole dans ce sens-là. C'est aussi un enjeu important sociétal parce que à force de répéter effectivement qu'il faut qu'on adapte, qu'on réadapte notre mode de fonctionnement et le mode de vie, on a là des personnes importantes du secteur énergétique qui nous indiquent l'urgence de la situation. De l'autre côté, ça démontre aussi l'importance et on va dire la vision qu'a pu avoir le président de la République dans son programme, avec notamment ce sujet d'indépendance énergétique, de souveraineté énergétique qui est essentiel. On le voit très bien aujourd'hui, si on doit prendre ce genre de mesures, c'est tout simplement lié au fait que notre capacité de production d'électricité n'est pas suffisamment, ne répond pas suffisamment à notre besoin. Donc les propositions de construction de nouvelles centrales qu'a fait le président de la République rentrent dans ce cadre-là. Évidemment, ça prend du temps et on a une urgence à gérer avant d'atteindre cet objectif-là. Mais dans tous les cas, il faut qu'on comprenne tous que le mode de vie qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui ne peut pas continuer. Donc ça concerne chacun de nos citoyens dans leur responsabilité individuelle pour éviter le gaspillage. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on n'utilise pas. Mais de l'autre côté, ça donne une responsabilité aux politiques, aux élus locaux, qui doivent adapter l'ensemble de leur organisation, notamment ce qui concerne les transports communs, les transports locaux, à cette contrainte-là, à ces urgences-là. Donc c'est un enjeu global, c'est un enjeu qui concerne toutes les strates de notre société, et ce message des trois patrons nous indique encore une fois l'urgence de la situation, et je pense que ça apportera, et il y aura une réaction du niveau de cette alerte-là.
Alors, toujours sur la question de l'environnement, parmi les nouveaux députés, 25% ont suivi la formation proposée par des scientifiques sur la crise climatique, 80 parlementaires d'ensemble, 70 députés de la NUPES ont participé à cette initiative qui n'avait pas de caractère officiel. Vous avez le sentiment que le second quinquennat d'Emmanuel Macron sera beaucoup plus offensif sur les questions écologiques ?
En réalité, c'est une situation qui s'impose à tout le monde, peu importe notre étiquette ou notre camp politique. C'est vrai que la classe politique a mis du temps à prendre ce sujet-là corps et âme. Ça a été d'ailleurs instrumentalisé d'un point de vue idéologique par certains partis politiques. Nous, on souhaite que l'écologie sorte de l'idéologie et que ce soit de toute façon une situation qui nous concernera tous et que chacun des partis puisse s'adapter à cela. Donc, dans ce sens-là, on a un bilan. On a un bilan lors du dernier gouvernement qui montre que la principale urgence qui concerne l'émission des gaz à effet de serre, on a une accélération des diminutions lors du dernier quinquennat. Maintenant, on a un objectif qui était encore assez ambitieux pour 2030 et le gouvernement et le président de la République sont engagés pour accroître cet objectif-là. Donc l'urgence écologique, l'écologie, c'est une contrainte, c'est comme les contraintes budgétaires, comme les contraintes financières qui s'appliquent à chacun d'entre nous, elle n'appartient pas à un seul camp politique. Le fait que certains députés aient pris l'initiative de rencontrer ce groupe que d'autres, bon, ça montre aussi un intérêt de certains partis à d'autres, mais je pense que ça dépasse, on va dire, les différences politiques de chaque camp et que chaque parti politique doit faire des propositions pour répondre à ces contraintes et ces enjeux-là. C'est pas le cas de tout le monde, c'est un regret. Et on voit aussi que dans les votes, notamment des élections législatives et notamment des votes des catégories un peu plus jeunes, c'est un sujet qui est en priorité des importances et sur lesquelles on est très très attendu. D'ailleurs, ce qui est normal parce que c'est une préoccupation qui va avoir des impacts très importants, en particulier pour les prochaines générations.
Ergun Toparslan, sans majorité absolue, le gouvernement va devoir passer des compromis avec les groupes politiques de l'opposition. Elisabeth Borne a parlé de majorité d'action. C'est une bonne chose finalement pour vous, cette situation nouvelle qui va donner plus de poids aux députés?
En réalité, c'est une situation qui ne va pas donner plus de poids aux députés, c'est une situation qui va donner plus de poids aux idées. Et la majorité d'action est une notion importante. Et, on s'est battu et on s'est présenté pour avoir une majorité absolue pour le président de la République, c'était notre souhait. Nous n'y sommes pas parvenus. Les Français ont fait un autre choix. En tant que démocrates, nous sommes obligés de le respecter et d'agir avec l'Assemblée nationale, la représentativité du peuple qui est en face de nous. Donc maintenant, est-ce que l'ensemble de cette représentation nationale va être dans des postures uniquement politiciennes? Alors, ce qui est un peu drôle, c'est ce qui est reproché à la majorité présidentielle jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans une opposition systématique, ou pour certains d'entre eux, dans les valeurs et les projets qu'ils ont portés localement, ils vont également aller chercher à faire en sorte d'améliorer le quotidien de leurs concitoyens sur chacune des circonscriptions. C'est la responsabilité des députés, ils en ont une, un peu plus que ce qui aurait pu être traditionnellement, mais je pense avant tout que c'est le retour des idées, et en ce sens, ça peut être salutaire aussi pour notre vie démocratique.
Alors c'est un membre de la France Insoumise qui va diriger la commission des finances. Qu'attendez-vous du nouveau président Éric Coquerel qui a notamment déclaré qu'il voulait travailler sur l'évasion fiscale?
En réalité, travailler sur l'évasion fiscale, ça se faisait déjà lors de notre majorité et qui a d'ailleurs eu des bons résultats. Pour ceux qui connaissent l'organisation et le travail à Bercy, et surtout, on sait que ça dépend beaucoup également des nouvelles technologies. Un exemple tout bête, dernièrement, on a réussi à aller retrouver beaucoup d'évasion fiscale grâce à l'intelligence artificielle. Tenir ce propos en tant que tel, bon, je peux le comprendre vu sa famille politique. Personnellement, je n'attends pas grand-chose. Je souhaite que la commission des finances ne soit pas non plus une chambre politique où tel ou tel parti vient régler ses comptes. J'aurais préféré que la présidence vienne à une personnalité d'un parti de gouvernement, ou à une femme, par exemple, Valérie Rabault, qui aurait très bien pu être une présidente et qui a une très grande expérience politique. Mais c'est la démocratie, il faut respecter, et l'organisation du Parlement fait que c'est un groupe de l'opposition revient à cette présidence-là. Traditionnellement, ça revenait au groupe d'opposition principal, qui est aujourd'hui le Rassemblement National. Cette fois-ci, les députés ont décidé autrement, ça revient au deuxième groupe d'opposition. J'aurais préféré, encore une fois, que ce soit un membre de parti de gouvernement qui soit à la tête de cette commission.
Alors, pour la deuxième fois en 30 ans, le gouvernement est dirigé par une femme. C'est également une femme qui préside l'Assemblée nationale. Et le groupe présidentiel est dirigé également par une femme à l'Assemblée. C'est un message important qui est adressé aux Français et aux Françaises.
Alors tout d'abord parce que en étant dans cette famille-là, ces choix-là, ils se sont faits pas uniquement par rapport à leur profil, mais surtout par rapport à leur qualité et à leur parcours. Donc en ce sens, c'est très salutaire et j'en suis très ravi. Quand on voit la désignation de la Première ministre et ensuite la présidente de l'Assemblée nationale, puis la présidente du groupe majoritaire, on voit qu'au final, ce sont des personnes qui sont arrivées, qui ont été désignées à ces postes-là grâce à leurs compétences. Et je pense que ça montre aussi l'évolution de la classe politique et le changement que ça a pu apporter. Tout le monde aurait espéré que ça arrive plus tôt, que la parité soit plus importante, par exemple, dans l'Assemblée nationale, parce qu'elle l'est moins que lors de la dernière Assemblée. Mais aujourd'hui, je pense que on peut, nous, en tant que majorité présidentielle, être tout à fait ravis, parce que ça s'est fait vraiment sur leur qualité et sur leur parcours et sur leurs compétences.
Ergun Toparslan, la gauche reproche aux députés d'ensemble d'avoir voté pour deux vice-présidents de l'Assemblée issus du Rassemblement national, même si l'on peut comprendre que toutes les sensibilités soient représentées à l'Assemblée. Est-ce que ce vote pour des élus RN est une façon de banaliser l'extrême droite?
Moi, ce qui me dérange, c'est qu'avant tout, cette coalition LFI, que je ne nommerai pas de gauche, parce que finalement, c'est un parti qui a pris l'île là-dessus, elle a été complètement divisée, et à travers cette division-là, ils essaient de trouver un bouc émissaire. Quand on regarde, il y avait deux candidatures des Verts qui ont récolté très peu de votes. En réalité, la candidature qui a eu le plus de soutien et très largement de la majorité présidentielle pour un poste de vice-président, c'est celle de Valérie Rabault, qui n'a pas été mis en priorité par cette gauche-là. Et donc voilà, aujourd'hui, on peut pas remettre en cause la légitimité de ces élus-là. On les combat. On les a combattus sur le terrain, mais il faut aussi respecter la démocratie, cette représentation-là. Demain, personne ne peut nous dire qui a voté pour tel ou tel, mais quand on voit la répartition des votes, c'est surtout une division de cette coalition LFI, une mise à l'écart des Verts, et surtout un non-suivi des profils très expérimentés comme ceux du Parti Socialiste. Donc voilà, maintenant que chacun balaye devant sa porte, au lieu d'aller chercher des coups politiques, honnêtement, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, cette Assemblée nationale donne un peu plus de responsabilité à chaque parti, à chaque député. Mais quand on dit il faut le retour des idées, il faut vraiment le retour des idées. Sauf ce qu'on voit depuis une semaine, c'est surtout des polémiques ridicules et des prises de position assez ubuesques. Un député qui veut pas serrer la main de l'autre, mais en réalité, il serre la main d'autres députés du Rassemblement national. Il faut très vite qu'on sorte de ça parce que quand on voit l'abstention, je suis pas certain que ça va aider à ce que les Français retournent au scrutin, retournent à l'urne pour les prochains scrutins.
Qu'avez-vous pensé de la sortie du doyen de l'Assemblée sur l'Algérie et l'OAS? Je rappelle que cet élu du RN s'est dit nostalgique de l'Algérie française et il a refusé de dire si l'OAS avait ou non commis des crimes.
J'étais choqué par rapport à ses propos en ce qui concerne l'OAS, parce que tout d'abord, nous faire croire qu'il ne sait pas ce qu'est l'OAS, lui qui est membre du Front National depuis les années 70, c'est-à-dire le Front National, où il y avait une énorme porosité avec les organisations, les paramilitaires qui étaient dans l'OAS, nous dire qu'il ne sait pas ce que l'OAS, est-ce qu'elle a commis des crimes ou pas, c'est tout d'abord assez insultant, et une insulte à notre intelligence. Très honnêtement, il nous prenait un peu pour des débiles sur le sujet-là. Maintenant, dans cette démarche de dédiabolisation du FN, ils veulent tirer le rideau sur ce passé-là. Nous, on n'est pas dupes, c'est pour ça qu'on combat le Rassemblement national. Derrière, par rapport à son histoire de pieds noirs et qui regrette la désirée française, on peut pas leur reprocher. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de drames, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été très tristes, de migrations suite à l'indépendance de l'Algérie. Mais pour autant, on ne peut pas rentrer dans des explications et dans la justification des crimes qu'a commis l'OAS. Donc ça montre encore une fois que même si les efforts de Marine Le Pen qui vont dans le sens d'effacer l'histoire, d'effacer les positions, ça ressortira toujours. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est tout d'abord rappeler à tout le monde ce qu'est le Rassemblement National, rappeler à tout le monde ce qu'est un député du Rassemblement National, même si ils ont essayé de rajeunir la façade. Dans le fond de la boutique, il y a toujours ce côté rattachement à ces parcours politiques, historiques, criminels de l'OAS et de la justification de l'injustifiable. Donc, pas choqué, mais quand même très énervé parce que son explication était assez hasardeuse et foireuse.
Merci Ergun Toparslan. Je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.